Dit immobilier, le prêt longue durée de Banque Atlantique pour acquérir, construire ou rénover votre logement à taux exceptionnel vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient dans 30 minutes. Vos réactions et vos témoignages sur le Tchad, un mois après la répression sanglante des manifestations du 20 octobre pour dénoncer la prolongation de la transition. Dites-nous si la situation est encore tendue. Je vous rappelle le bilan des violences. Une cinquantaine de morts selon le gouvernement, alors que la Fédération internationale des droits humains affirme avoir identifié 145 victimes. Le gouvernement, qui, rappelons-le, accuse l'opposition d'avoir fomenté une insurrection populaire armée en vue de s'emparer du pouvoir par la force. Alors un mois après, constatez-vous peut-être des signes d'apaisement entre le pouvoir et l'opposition? Comment envisagez-vous la suite de la transition? Continuez à nous appeler 33 9 693 693 70 et on vous attend également sur nos réseaux sociaux, la page Facebook de l'émission et le compte WhatsApp d'appel sur l'actualité. Mais d'abord, ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité et on va commencer avec des questions sur le Burkina Faso. Bonjour Idrissa.
Oui, bonjour Guillaume.
Vous êtes à Ouagadougou, au Burkina Faso, votre pays, on vous écoute.
Monsieur Guillaume, vendredi dernier, des manifestations ont eu lieu à Ouagadougou pour réclamer notamment le départ des forces françaises du territoire burkinabé. Je voudrais savoir, à ce jour, quelle est la réaction française à la suite de ces manifestations? Et deuxièmement, est-ce que la France entend retirer sa présence militaire du pays?
Quel avenir pour les forces spéciales françaises basées au Burkina Faso? Bonjour Franck Alexandre.
Bonjour Juan.
Journaliste, spécialiste des questions défense à RFI, Idrissa le rappelait à l'instant, vendredi il y a eu une nouvelle manifestation contre la présence militaire de la France, manifestation qui a visé l'ambassade de France à Ouagadougou, mais aussi la base militaire de Camboisin, qui est située à la périphérie effectivement de la capitale, et c'est là même où sont stationnés les éléments de la force Sabre. La France a évidemment réagi à la suite des manifestations.
Oui, bien sûr, parce qu'elles ont passablement irrité Paris. Et au-delà des manifestations de vendredi, ce qui a provoqué l'ire des autorités françaises, ce sont les vives critiques du Premier ministre du Burkina Faso à l'égard des partenaires internationaux formulées dans la foulée samedi. Et les relations n'ont pas toujours été loyales, a-t-il lancé, sans citer personne. Il n'empêche, la réaction française n'a pas tardé. Le départ des forces spéciales françaises qui stationnent donc à Camboisin est sur la table. Évoquer un départ de sabre, c'est une façon de mettre la pression sur le capitaine Traoré, aurait, dit-on, dans l'entourage du ministre des Armées.
La France pourrait-elle donc se retirer ou retirer sa présence militaire?
Ce n'est pas si simple. Un sabre, c'est un petit contingent, à peu près 300 opérateurs, mais c'est un objet militaire particulièrement sensible. Ces forces spéciales ont pour mission, vous le savez, de neutraliser les têtes de réseau des groupes armés terroristes qui évoluent au nord du Burkina, le long de la frontière malienne. Trouver une nouvelle base, ce ne sera pas si simple donc.
Voilà, donc le ministre français des Armées qui n'écarte pas un départ de la force Sabre. Vous avez une autre question, Idrissa?
Oui, John. Ma dernière question. Après plus de 10 ans de présence au Burkina Faso, est-ce que vous pouvez m'expliquer un bilan de l'opération Sabre?
Peut-on dresser un bilan, Franck-Alexandre?
Oui, je disais, donc, vous savez, il y avait les opérations militaires menées par Barkhane et puis il y avait les opérations spéciales menées par Sabre. Et Sabre, sa vocation, ce sont les têtes de réseau, les chefs djihadistes. Je citerai simplement deux noms pour expliquer quel est le bilan exemplaire de l'action de Sabre. C'est Walid al-Sahraoui, neutralisé. Donc, c'est le chef et fondateur de l'État islamique au Grand Sahara, neutralisé par les forces spéciales le 15 septembre 2021. Et enfin, Abdelmalek Droukdel, le chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, éliminé lui en juin 2020 par la force Sabre. Voilà, les deux têtes de réseau des deux gros groupes terroristes qui évoluent au Sahel.
Ça veut dire que le départ de Sabre sera très dommageable pour la suite des opérations et la lutte contre le terrorisme. Plus globalement, quel avenir, Franck Alexandre, pour les forces françaises en Afrique?
Vous savez, l'opération Barkhane a officiellement pris fin le 9 novembre dernier. C'était l'annonce du président de la République. L'armée française, elle a quitté le Mali le 15 août dernier, poussée, vous le savez aussi, vers la sortie par la junte malienne. Aujourd'hui, 3000 soldats sont toujours présents au Sahel, au Niger et au Tchad notamment. Le président Emmanuel Macron souhaite une refonte totale du dispositif d'ici l'été prochain. Désormais, l'accent sera mis sur une présence militaire plus légère, plus discrète, davantage tournée vers la formation des armées locales. Il n'est plus question, a indiqué récemment le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, de lutter contre le terrorisme à la place de nos partenaires, mais de le faire avec eux à leur côté, mais en tout cas plus en première ligne.
Quel avenir pour les forces spéciales françaises au Burkina Faso? Vous souhaitez réagir, commenter? N'hésitez pas, vendredi c'est la libre antenne. Vous avez la possibilité de nous interpeller sur tous les sujets qui vous marquent. Idrissa, a-t-on répondu à vos questions, puisque vous en avez
plusieurs? Effectivement.
Bon, et je vois que c'est une première participation.
Ah oui, je participe pour la première fois.
Bon, tout arrive. Alors, merci infiniment. Merci de votre confiance. À bientôt. Et à bientôt, Franck Alexandre.
Merci, bonne journée.
Journaliste spécialiste des questions défense et sécurité à RFI. 9h17, ici à Paris, 33 9 693 693 70. Ibrahim, bonjour.
Oui, bonjour RFI, bonjour à vos millions d'auditeurs.
Et merci de nous appeler de Conakry. Vous souhaitez que l'on revienne sur le sommet de la francophonie qui s'est refermé dimanche à Djerba, en Tunisie?
Oui, effectivement, Juan. J'ai trois petites questions.
Oui.
Ok, la première question est, le sommet de la francophonie s'est achevé dimanche dernier sur l'île de Djerba, en Tunisie. Maintenant, ma question est de savoir pourquoi dit-on qu'aujourd'hui, que la francophonie est en perte de vitesse? La deuxième question, des propositions ont-elles été émises pour relancer l'organisation?
Alors, Clémentine Pawlowski était sur place, elle était l'une des envoyées spéciales de RFI au sommet de la francophonie. Bonjour Clémentine.
Bonjour Juan et bonjour Ibrahim.
Alors la question d'Ibrahim est intéressante, elle est pertinente. C'est vrai que ça peut sembler paradoxal. Au début des années 60, au moment des indépendances en Afrique, on estimait qu'il y avait à peu près 60 millions de francophones. Aujourd'hui, la langue française, c'est 321 millions de locuteurs dans le monde. Et pourtant, il se dit que la francophonie est en perte de vitesse.
Alors effectivement, Juan, il y a plus de gens qui parlent le français dans le monde que dans les années 60. En fait, le constat qui est dressé aujourd'hui, c'est qu'on est de moins en moins francophone du verbe naître, mais qu'on le devient de plus en plus grâce à l'apprentissage du français. Alors ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que le français en tant que langue maternelle est de moins en moins important. Par exemple, les gens vont d'abord parler le bambara, le wolof ou le swahili, et ce n'est que dans un deuxième temps, en allant à l'école, qu'ils apprendront le français. Rappelons tout de même que le français reste la cinquième langue la plus parlée au monde. Et puis, il y a aussi ce phénomène qu'on observe actuellement. Il y a plusieurs pays qui se tournent aussi vers le Commonwealth, organisation anglophone, en plus de la francophonie. C'est le cas, par exemple, du Rwanda ou plus récemment du Togo et du Gabon. Et cela dit, sur ce point, les représentants de la francophonie disent n'y voir aucun inconvénient. C'est normal, selon eux, dans un monde multiculturel comme le nôtre. Et puis ensuite, Ibrahim, il y a la francophonie en tant qu'organisation. Et là, ce qu'on a pu constater pendant ce sommet de l'OIF, c'est que les États membres pouvaient avoir du mal à s'exprimer d'une seule et même voix sur certains sujets plus politiques, comme par exemple la crise entre la RDC et le Rwanda. Mais avec 88 États membres, on peut aisément se douter que tous n'ont pas toujours les mêmes intérêts.
Et y a-t-il eu des propositions justement pour relancer la langue française, relancer également l'organisation, comme nous le demande Ibrahim?
Oui, alors plusieurs textes ont été adoptés à l'issue du sommet, des textes qui serviront en fait de feuille de route à l'OIF notamment. Un qui est important, c'est la déclaration sur la langue française dans la diversité linguistique de la francophonie. C'est un document dans lequel les chefs d'État et de gouvernement s'engagent à promouvoir davantage l'usage du français dans les États membres de l'OIF, mais aussi à l'international. Et tout ça, ça passera par exemple par le fait d'assurer un enseignement de qualité dans cette langue, donc mieux former les enseignants et l'ensemble du personnel éducatif. Autre point important sur lequel la francophonie s'est engagée, c'est le fait de garantir l'égalité entre les filles et les garçons, car aujourd'hui, bien souvent, ce qu'on constate, c'est que les petites filles ont toujours moins accès à la scolarisation que les garçons et donc elles ont moins d'opportunités d'apprendre le français. Et puis l'OIF veut aussi contribuer à créer dans ses États membres un environnement francophone et tout ça, ça passe par le soutien des activités culturelles, notamment autour par exemple du livre, de la lecture, du sport, des activités scientifiques. Et puis, dernier volet, il y a aussi le fait de favoriser l'utilisation du numérique, d'internet, des outils éducatifs en ligne en français. Donc ça passe évidemment par l'innovation. innovation technologique.
Voilà, dans les grandes lignes, les propositions émises lors du sommet de la francophonie qui a réuni pendant deux jours les chefs d'État et de gouvernement des 88 pays membres de l'OIF. Vous avez une dernière question, Ibrahim ?
Oui, ma dernière question, pourquoi Emmanuel Macron n'a pas prononcé de discours lors de ce sommet ?
Ah, ça ne vous a pas échappé, Ibrahim. Clémentine Pavlovski, une réponse ?
Oui, tout à fait. Alors, Emmanuel Macron n'a pas du tout boudé l'ouverture du sommet. En fait, si vous voulez, c'est la francophonie qui, cette année, a voulu proposer un format renouvelé de sommet. C'est vrai que d'habitude, on était plutôt habitué à une cérémonie d'ouverture avec des discours interminables de chefs d'État, de chefs de gouvernement qui se succédaient à la tribune. Et là, les organisateurs du sommet se sont dit « Bon, cette année, on va faire quelque chose de plus efficace. Il n'y aura donc que trois prises de parole en ouverture. Celle d'abord du président Kais Saied, le président de la Tunisie. La Tunisie qui est le pays hôte, qui était le pays hôte du sommet et qui récupère donc la présidence de l'OIF. On a eu le discours du premier ministre arménien qui était le pays qui assurait la présidence sortante de l'OIF. Et puis, discours évidemment de la secrétaire générale de l'OIF, la rwandaise Louise Mushikiwabo. L'idée, c'était en fait d'avoir moins de discours pour pouvoir permettre aux chefs d'État et de gouvernement d'échanger davantage lors des huis clos.
Il y a eu notamment
des tables rondes. Et l'idée, c'était de permettre d'avoir plus d'interactivité. Alors, malheureusement, nous, les journalistes, on n'a pas pu assister à ces tables rondes qui étaient à huis clos. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, il y a eu à l'issue de ces tables rondes des discussions, des déclarations dans la presse qu'on a pu suivre et que vous avez pu suivre sur RFI.
Le président Macron s'est quand même exprimé. Il a fait des déclarations sur plusieurs médias et il s'exprimera en revanche lors du prochain sommet de l'OIF en 2024.
Évidemment, ouais. Puisque la France sera le prochain pays hôte. Et c'est donc la France qui reprendra la présidence de l'Organisation internationale de la francophonie pendant deux ans. Et ça, c'est quelque chose qui a été décidé lors de ce sommet.
Ibrahim, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui, effectivement, je suis satisfait, merci.
Vous êtes satisfait, tant mieux, on est là pour ça aussi. Bonne journée à Conakry, un grand merci à Clémentine Pavlovski.
Merci.
Journaliste au service Afrique de RFI. Vos questions pour mieux comprendre l'actualité, on va parler de la Corée du Nord. Alexis, bonjour.
Bonjour Juan et bonjour à toute l'équipe de la RFI.
Alors Alexis, je sais que régulièrement vous nous envoyez des questions concernant la Corée du Nord dès que Pyongyang envoie un missile. Là vous avez une question donc, après le missile de vendredi dernier.
Oui, lors d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, plusieurs pays dont les États-Unis ont condamné le Nord-Coréen après le lancement des nouveaux missiles vendredi dernier.
Oui.
Peut-on savoir jusqu'où peuvent aller les Nord-Coréens après ces nouveaux tirs de missiles ?
Oui, 75 missiles depuis le début de l'année, mais c'est vrai que celui lancé vendredi dernier a provoqué une levée de boucliers. Bonjour Juliette Morillo.
Bonjour.
Journaliste spécialiste de la péninsule coréenne, je rappelle ce livre que vous avez récemment publié aux éditions Taillandier, La Corée du Sud en 100 questions, la tyrannie de l'excellence. Un mot tout de même, Juliette Morillo, avant de répondre à Alexis, un mot sur ce missile lancé vendredi dernier, missile surnommé le monstre par Kim Jong-un.
Mais oui, c'est le Hwasong-17 et c'est une arme extrêmement puissante, la plus puissante de l'arsenal nucléaire et balistique nord-coréen, puisque c'est un missile intercontinental capable potentiellement d'atteindre les États-Unis, c'est-à-dire d'effectuer une charge de 15 000 km avec une charge de 500 kg et il pourrait porter des têtes nucléaires multiples. Donc c'est l'arme la plus puissante que la Corée du Nord n'ait jamais eue. Alors son gros défaut, c'est que c'est un monstre et qu'il est très gros et que les experts se demandent si ce n'est pas un handicap. Mais de toutes les façons, il est là pour la dissuasion et non pas pour l'utilisation.
Je le disais en préambule, Juliette Morillo, plus de 75 missiles lancés, tirés depuis le début de l'année. Jusqu'où peuvent aller les Nord-Coréens, nous demande Alexis.
Alors, les Nord-Coréens iront certainement jusqu'à un septième essai nucléaire, voire plusieurs autres essais nucléaires. En quelque sorte, l'exemple des tensions et de la guerre en Ukraine avec la Russie sont un exemple pour la Corée du Nord et apportent de l'eau à son moulin. L'Ukraine a renoncé à l'arme nucléaire et est envahie. Donc, les Nord-Coréens veulent se protéger et ils iront environ. Alors, ils ont un agenda qui est très précis, qui est annoncé à l'avance. Ainsi, ce Hwasong-17, Kim Jong-un avait annoncé sa construction en 2021. Donc, le programme nucléaire va continuer à se poursuivre parce que la Corée du Nord veut avant tout être reconnue comme une puissance nucléaire, ce que le reste du monde ne veut pas, mais qu'en quelque sorte, ils ont fini par admettre, parce que tous les exercices, par exemple, américano-sud-coréens au sud de la péninsule, montrent bien qu'il y a un danger de l'autre côté. Mais la Corée du Nord ne dénucléarisera pas et poursuivra son programme.
Ouais, d'ailleurs, Kim Jong-un a récemment promis de recourir à la bombe atomique en cas d'attaque nucléaire contre son pays. On tend l'oreille, Alexis, parce que le réseau téléphone n'est pas très bon, mais je crois que vous avez une dernière question à poser à Juliette Morillo.
Effectivement. En plus des condamnations à l'ONU, quel autre recours reste-t-il aux États-Unis pour défendre la Corée du Sud? Alors, du Japon, de la menace nord-coréenne.
Effectivement, c'est une bonne question. Il y a des condamnations à l'ONU, Juliette Morillo, les États-Unis promettent de tout faire pour sécuriser la Corée du Sud et le Japon, mais concrètement, avec quels moyens?
Alors déjà, concrètement, il n'y a pas de menace directe contre la Corée du Sud et contre le Japon. C'est surtout un moyen de dissuasion.
Enfin, il n'y a pas de menace directe. Juliette Morillo, je me mets à la place de ceux qui nous écoutent en ce moment. Il y a quand même ce missile qui est retombé au large du Japon vendredi dernier.
Oui, mais il n'y a pas beaucoup de fenêtres de tir. Regardez géographiquement comment se place la péninsule coréenne. La fenêtre de tir, c'est forcément au-dessus du Japon. Ils ne vont pas tirer sur la Corée du Sud, déclencher une guerre dans laquelle ils seraient probablement anéantis, ni vers la Chine. Donc c'est un peu logique, mais c'est surtout dissuasif. Et puis, que peuvent faire les États-Unis et le Japon? Eh bien, pas grand-chose. C'est bien là le problème, et c'est là-dessus que joue la Corée du Nord. La Corée du Nord voudrait probablement maintenant une sorte de moratoire éventuel qui serait freiner finalement son programme d'armement, mais surtout son but en échange de cet effort qu'elle ferait serait la levée des sanctions économiques et de toutes les sanctions qui étouffent son peuple. Mais si les Nations Unies continuent à déclarer de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord, ça n'infléchira pas sa ligne du tout. Oui. La seule qui pourrait aider, c'est la Chine. Et la Chine ne le fera pas.
D'accord. Oui, c'est vrai que les sanctions, on voit bien qu'elles n'inquiètent pas ou elles ne semblent pas inquiéter la Corée du Nord. Ça fait bien des années que le pays est sous sanctions internationales et ça ne stoppe pas son programme nucléaire. Alexis, a-t-on répondu à vos questions ?
Réellement, effectivement, merci à toute l'équipe et bonne journée à vous.
Et merci de nous écouter à Lubumbashi en République démocratique du Congo. Un grand merci également à Juliette Morillo qui se libère systématiquement quand nous l'appelons pour répondre aux questions des auditeurs de RFI, spécialiste de la péninsule coréenne et ce livre passionnant. Si la Corée du Sud vous intéresse, n'hésitez pas à le lire. La Corée du Sud en 100 questions, la tyrannie de l'excellence aux éditions Taillandier. Il nous reste une petite minute. C'est trop court, évidemment, pour accueillir un nouvel auditeur, mais qu'il ne s'inquiète pas. On le rappellera très vite, certainement demain, pour qu'il puisse poser ses questions à la rédaction de RFI. D'ailleurs, d'ici l'émission de demain matin, n'hésitez pas, soit vous nous appelez, soit vous nous envoyez vos questions sur les réseaux sociaux, en message privé, bien évidemment, votre numéro de téléphone, afin que nous puissions vous rappeler, car le principe de cette émission est de vous donner la parole, de vous entendre, et nous allons le faire d'ailleurs dans 10 minutes. Vous donner la parole, vous qui êtes au Tchad, pour témoigner de la situation dans le pays un mois après les violences du 20 octobre, répression sanglante des manifestations organisées par l'opposition. Est-ce que vous constatez toujours sur place la tension? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quand même des signes d'apaisement pour essayer de décrisper la situation? On a envie de vous entendre, évidemment. Vous nous appelez, vos témoignages, 33 9 693 693 70 et les réseaux sociaux. J'ai un œil en ce moment sur la page Facebook de l'émission, donc n'hésitez pas, envoyez un message et je le lirai tout à l'heure en direct sur l'antenne.